Laudetur Jesus Christus.
Dans le sud du Liban, les violations de la trêve par l'armée israélienne se poursuivent, 3 jours seulement avant la date butoir qui lui impose un retrait total de la région. Retour sur cette situation fragile avec notre correspondant à Beyrouth au début de ce journal. L'Église catholique des États-Unis met en garde Donald Trump. « Nous ne nous alignons sur aucun parti politique », déclare le président de la conférence des évêques. Mais les évêques qui resteront vigilants sur le respect de la dignité humaine. Dans ce journal également, le couple franco-allemand qui affiche son unité face aux défis posés par la nouvelle administration américaine. Nous irons aussi au Sahel où les 3 pays tenus par des juntes militaires, Niger, Mali et Burkina Faso, annoncent une force armée conjointe. Et puis dans notre dossier ce matin, gros plan sur les forces kurdes en Syrie, une composante essentielle de la société avec laquelle les nouvelles autorités de Damas doivent composer. Entre aspiration à l'autonomie et intégration dans un nouveau projet national, quelle place pour les Kurdes? Nous en discuterons avec notre invité.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la date du 26 janvier approche. Elle marque la fin d'une période de 2 mois, à l'issue de laquelle l'armée israélienne est censée s'être retirée du Liban Sud, conformément à l'accord de cessez-le-feu signé avec le Hezbollah, et permettre le déploiement de l'armée libanaise dans la région. Mais à quelques jours de cette date butoir, la situation reste très fragile sur le terrain. Les précisions à Beyrouth de notre correspondant Paul Ralifé.
Une trêve jamais réellement respectée par l'armée israélienne qui n'a toujours pas achevé son retrait du territoire libanais. Ce mercredi, l'armée israélienne a poursuivi ses opérations de ratissage, de blocage de routes avec des remblais et de destruction des maisons dans 4 localités des secteurs oriental et central de la frontière. Des tirs de mitrailleuses ont retenti et 20 d'explosions dues au dynamitage de maisons ont été entendues. 7 autres habitations ont été incendiées par les soldats israéliens qui sont censés achever leur retrait d'ici lundi. Cependant, les troupes israéliennes appuyées par des chars et des blindés restent positionnées dans plusieurs villages libanais frontaliers. En parallèle, l'armée libanaise poursuit lentement son déploiement dans certaines localités évacuées par les Israéliens. Mais elle n'aura probablement pas le temps de se déployer sur la ligne bleue dans les 4 jours qui restent avant l'expiration lundi du délai des 60 jours. Les autorités libanaises ne cachent pas leur inquiétude face à ces développements. Des sources diplomatiques affirment que Beyrouth rejette toute prorogation de la période des 60 jours, comme le souhaiterait Israël, et exige le retrait total d'ici à lundi pour permettre le déploiement de l'armée libanaise. Paul Khalife, Beyrouth. RFI pour Radio Vatican.
Une levée des sanctions qui pèsent sur la Syrie serait la clé pour la stabilité du pays et sa reconstruction à venir. Tels sont les propos du nouveau ministre syrien des Affaires étrangères depuis le sommet économique mondial à Davos en Suisse. La raison de ces sanctions se trouve désormais à Moscou, a-t-il précisé, en référence à Bachar al-Assad qui a fui en Russie. La Syrie où est attendu le cardinal Claudio Guggerotti, le préfet du dicastère pour les églises orientales. Une visite pour y apporter le soutien et la bénédiction du pape aux chrétiens du pays. Le Saint-Père précise un communiqué du dicastère, souhaite que soit reconstruite la Syrie, un pays pacifique dont la prospérité est assurée par toutes ses composantes dans le respect de la liberté, de la dignité de la personne humaine et de la diversité, en commençant par l'élaboration de la nouvelle constitution. Le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio promet un soutien inébranlable à Israël. Il s'est entretenu hier avec Benjamin Netanyahou et a rappelé que ce soutien à l'État hébreu était une priorité absolue pour Donald Trump. L'une des premières mesures de ce dernier est la fin des sanctions imposées par Joe Biden contre des colons extrémistes de Cisjordanie. La Cisjordanie où l'armée israélienne a lancé avant-hier une vaste offensive à Jenin, dans le nord du territoire palestinien. Le bilan est lourd, au moins 10 morts et 35 blessés. Les États-Unis, eux, qui ont donc ouvert une nouvelle page, celle de l'administration Trump 2, et elle suscite bien des inquiétudes sur un plan diplomatique ou commercial, en raison de l'imprévisibilité de l'hôte de la Maison-Blanche. Des inquiétudes aussi dans le pays pour les responsables religieux américains, suite aux nombreux décrets déjà signés par Donald Trump, à commencer par l'Église catholique américaine, Marine Henriot.
Oui, Olivier, car ces nombreux décrets signés théâtralement par Donald Trump concernent des questions sur lesquels l'Église a beaucoup à offrir, écrit Monseigneur Timothée Broglio, le président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, qui va droit au but dans son communiqué partagé hier, dénonçant d'abord les mesures sur le traitement des immigrants et des réfugiés. Lundi, dès son investiture, Donald Trump a déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine, stoppé toute procédure de demande d'asile et promis une nouvelle fois l'expulsion massive de migrants des États-Unis. Les évêques américains qui sont aussi inquiets à propos des décrets sur l'extension de la peine de mort. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche veut y avoir recours plus souvent, a-t-il dit. Inquiétude également sur les mesures sur l'environnement. Donald Trump entend mener notamment de larges forages d'hydrocarbures dans des zones protégées. Monseigneur Broglio rappelle que l'Église catholique ne s'aligne sur aucun parti politique. Peu importe qui occupe la Maison-Blanche, écrit-il, les enseignements de l'Église restent inchangés, en espérant que ces décrets qui ne respectent pas la dignité humaine de tous soient modifiés. L'inquiétude de l'Église catholique américaine qui fait écho à l'exhortation très médiatisée de l'évêque épiscopalienne de Washington, c'était mardi. L'anglicane Marianne Budd rappelait que la grande majorité des immigrants ne sont pas des criminels.
Merci beaucoup Marine Henriot. Si l'Europe veut survivre, elle doit s'armer. Les propos hier du Premier ministre polonais Donald Tusk devant le Parlement européen, la Pologne qui assure ce premier semestre la présidence tournante de l'Union européenne. Donald Tusk qui s'exprimait devant le défi du retour de Trump à la tête des États-Unis alors que la guerre en Ukraine se poursuit aux portes de l'Union européenne. Donald Trump décidément dans toutes les têtes, c'était le cas hier lors de la rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux leaders européens se sont retrouvés pour célébrer les 62 ans du traité de l'Élysée, traité qui sert de base à l'amitié franco-allemande, une occasion pour les deux leaders affaiblis dans leurs pays respectifs d'afficher leur unité face aux défis posés par la nouvelle administration américaine. À Berlin, Delphine Herbollier.
Olaf Scholz a choisi un euphémisme pour qualifier ce qui attend les Européens avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Ce sera un défi, a-t-il déclaré en marquant une légère pause et en souriant. Aux côtés d'Emmanuel Macron, le chancelier allemand a donné le ton. L'Europe est un marché de 450 millions d'habitants. Elle est forte. Unie, elle restera un partenaire constructif pour les Américains. Olaf Scholz et Emmanuel Macron l'ont aussi rappelé, l'Europe devra travailler encore plus d'une même voix pour répondre aux menaces américaines, notamment d'augmenter les droits de douane sur certains produits européens. Pour le président français, il faudra notamment protéger les secteurs stratégiques de la métallurgie, le secteur automobile ou encore la chimie. Il faudra aussi davantage investir dans des projets communs de défense et d'intelligence artificielle. Plus d'unité, plus d'ambition, plus de souveraineté, ce sont donc les priorités de ces deux leaders européens, affaiblis en interne entre un président français pris dans une instabilité politique et un chancelier mal parti pour être réélu le 23 février prochain. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Un mot du Gabon, on vient de l'apprendre, où l'élection présidentielle a été fixée au 12 avril prochain. Une étape décisive vers un retour à un régime civil promis par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'état de 2023 qui a renversé Ali Bongo. La semaine prochaine, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui comprend le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ne fera plus partie de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur un plan sécuritaire, les trois pays tenus par des juntes armées sont toujours confrontés au terrorisme et s'organisent. L'AES a en effet annoncé la création d'une force armée conjointe. À Ouagadougou, les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
L'annonce a été faite par le ministre de la Défense du Niger, le général Salifou Modi, alors en entretien à la télévision publique. Les trois pays qui sont partis de la CEDEAO vont mettre en place une force militaire conjointe. La mise en place de la force qui va compter 5000 hommes est imminente et elle sera opérationnelle les prochaines semaines. Nous sommes dans le même espace, nous faisons face aux mêmes menaces. Mutualiser nos efforts était une nécessité, a affirmé le général Modi lors de l'entretien bilan de ses 18 mois de fonction. Déjà, des opérations conjointes ont été menées avec succès, notamment entre le Niger et le Burkina Faso, ainsi que des missions tripartites, a assuré le ministre Ouagadougou. Lamine Traoré pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un mot de Corée du Sud où le bureau d'enquête sur la corruption demande l'inculpation du président Yoon Suk-yeol. Celui-ci est détenu et suspendu de ses fonctions pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale le 3 décembre dernier. Une séquence qui a ouvert une profonde crise politique dans le pays. Le parquet sud-coréen a désormais 11 jours pour décider de lancer ou non les poursuites demandées contre le président déchu. Les autorités syriennes discutent avec les Kurdes, mais n'hésiteront pas à employer la force si nécessaire. Tel est le message délivré hier par le nouveau ministre syrien de la Défense, Mouraf Abou Kassra, devant des journalistes. Une sortie qui vient poser la question de l'influence et de la place des forces kurdes dans la nouvelle Syrie post-Bachar al-Assad. Depuis des décennies, les Kurdes de Syrie, comme ceux des pays voisins, la Turquie, l'Irak ou l'Iran, aspirent à un État. Durant la guerre civile syrienne, les forces démocratiques syriennes, les FDS, ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre le groupe terroriste État islamique. Des unités kurdes qui sont dans le viseur de la Turquie aujourd'hui, qui menace depuis plusieurs semaines de lancer une opération militaire contre elle afin de les éloigner de sa frontière. Mais c'est l'intégration de ces Kurdes dans la nouvelle Syrie qui pose question, alors que le nouveau pouvoir à Damas souhaite dissoudre tous les groupes armés pour les intégrer au sein du ministère de la Défense. Les forces kurdes n'ont pas la même vision de l'État que le groupe HTS dirige le pays, C'est l'une des questions délicates de l'équation syrienne aujourd'hui. Nous en parlons avec notre invité Boris Jams. Il est spécialiste du monde kurde, professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier.
Aujourd'hui, effectivement, les FDS, en tout cas les acteurs principaux des FDS ou de la constellation PKK en Syrie, déploient un discours autonomiste, c'est-à-dire revendiquent la possibilité d'avoir des prérogatives politiques qui seraient évidemment kurdes. Sur des territoires en Syrie, donc les trois régions principalement occupées par des populations kurdes, c'est-à-dire la Jezire tout à l'est, la haute vallée de l'Euphrate, c'est-à-dire la région de Kobané, et puis la région de Afrin, aujourd'hui occupée par la Turquie et par les supplétifs de l'armée turque dans cette région. C'est un changement par rapport à ce qui était proposé par les organisations kurdes au début, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, le discours autonomiste, il a toujours été présent, mais le PKK et les FDS, pendant longtemps, ont revendiqué la mise en avant d'un projet, ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, qui vise à des formes d'autogestion locale. Donc, pas du tout dans un esprit ni nationaliste kurde, ni kurdiste, donc ça pourrait éventuellement concerner des communautés syriaques, arabes, turkmènes locales. Et aujourd'hui, on a un discours clairement autonomiste, voire fédéraliste kurde sur cette zone-là.
Alors justement, aujourd'hui, les autorités de transition à Damas, dirigées par le HTS, appellent à reconstruire le pays, mais n'ont pas du tout cette vision fédéraliste d'une nouvelle Syrie. Comment va-t-elle intégrer cette donnée kurde dans le nord du pays, dans la nouvelle Syrie ? Est-ce qu'il y a déjà surtout des contacts entre les forces kurdes et les nouvelles autorités à Damas ? À quel point en est-on ?
Il y a des contacts probablement dès avant l'offensive de décembre. Dernièrement, on a assisté à la fois à un parrainage américano-français ou franco-américain pour que HTS prenne en compte cette variable kurde. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu sur une base militaire, donc la base de Dmeir, non loin de Homs, entre HTS et les FDS, avec des négociations sur l'intégration des forces armées kurdes. Les Kurdes, eux, souhaitent que l'intégration, elle se fasse non pas dans une dissolution ou dans une dilution, mais dans le maintien des forces kurdes sur les zones qui sont celles des FDS aujourd'hui. HTS ne veut surtout pas ça. Ils veulent une dilution dans le cadre d'une armée nationale, éventuellement avec des bataillons divers, mais pas territorialisés.
HTS fait l'une de ses priorités de la nouvelle Syrie, la constitution d'une nouvelle armée avec toutes les composantes de la société. Et donc, cela veut dire les Kurdes, selon vous, c'est là un des points, des pommes de discorde majeures entre les autorités à Damas et les forces kurdes dans les mois qui viennent ?
Oui, parce que il est très peu probable que FDS, en tant qu'armée, non pas en tant qu'organisation politique, se mette sous la coupe d'une chaîne hiérarchique qui serait dirigée depuis Damas. C'est une première chose. Et l'autre chose qui est problématique, c'est qu'il est très peu probable que HTS souhaite que des forces militaires qui sont politiquement divergentes se revendiquent d'une armée qui serait l'armée de l'État syrien dans une zone qui serait uniquement kurde et qui serait évidemment contrôlée politiquement sous la gouvernance des FDS, d'un avatar du PKK.
Voilà, les Kurdes de Syrie, la une de notre dossier ce matin. Boris Jams, maître de conférence en histoire à l'université Paul Valéry de Montpellier, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h pour l'édition de la mi-journée. Et je vous souhaite d'ici là une excellente journée.